Tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission Un caillou dans la chaussure, émission qui grandit car aujourd'hui Florence Michel nous a rejoint pour la rubrique spectacle en fin d'émission. Et plus particulièrement, Florence, tu as rencontré la compagnie La Moscope à propos du voyage de Capucine.
Oui, j'ai rencontré Maxime Dejoux-Guidot de la compagnie La Moscope, dont le spectacle Le Voyage de Capucine donc sera joué tout à l'heure à 15h à la Baleine qui divague sur le cours Julien. Il s'agit d'un conte psychanalytique à partir de 7 ans où il est question d'entrer dans sa mère.
À propos de cinéma, Nathalie Guimard pour Photokino n'aura pas assez de temps pour présenter en détail la richesse du festival Laterna Magica, dont c'est la quatrième édition qui va bientôt débuter du 5 au 23 décembre à Marseille. Mais pour Un caillou dans la chaussure, Nathalie s'est attardée au téléphone avec le cinéaste Jean-François Laghioni.
Oui, l'un des invités de Laterna Magica et qui sera à Marseille le 16 décembre. Et en introduction, nous parlerons du petit cinéma du 5 décembre qui introduira les rencontres.
La courte rubrique lecture d'aujourd'hui est composée de rencontres avec de jeunes lecteurs, ceux qui gazouillent et Raphaël qui dévore les livres. Et tout de suite, nous allons visiter l'exposition d'une sélection de planches originales de l'illustrateur Henri Galeron à l'Alcazar à Marseille, exposition qui court jusqu'au 5 janvier 2008. Une visite guidée par Henri Galeron en personne.
Un caillou dans la chaussure.
Au cœur de la bibliothèque de l'Alcazar se trouve l'Île aux Livres, un centre de documentation sur la littérature jeunesse. Il est animé par Anne-Marie Faure, qui propose des rencontres, des conférences et des journées de formation en direction des professionnels, des étudiants et autres passionnés de littérature jeunesse. Et dernièrement, c'est à Henri Galeron qu'Anne-Marie Faure a demandé de sortir des dessins originaux de ses tiroirs en vue de nous les montrer. Ensemble, ils ont fait une sélection actuellement exposée à la médiathèque L'Alcazar à Marseille depuis le 25 octobre et ce jusqu'au 5 janvier 2008. C'est donc au premier étage de la médiathèque, lors de l'ouverture de l'exposition, qu'Henri Galeron lui-même s'est transformé en guide pour nous commenter en exclusivité l'exposition de ses illustrations. Sous cadre, suspendu aux cimaises, des planches qui sont devenues albums jeunesse de la collection Enfant Images, des couvertures de romans dans la collection Folio chez Gallimard, des timbres-poste, des affiches publicitaires, des cartes postales, des albums. Et oui, le métier d'illustrateur a de multiples facettes.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Henri Galeron est né dans la région, près de Saint-Rémy-de-Provence. Enfant, l'école ne le réjouissait pas, mais le dessin était déjà une activité privilégiée. Il a suivi une formation classique à l'école des Beaux-Arts à Marseille, puis il est allé à Paris. Et c'est dans les années 70 qu'Henri Galeron a débuté son métier d'illustrateur. Alors la particularité de son travail est due à plusieurs facteurs. Le contexte, tout d'abord, juste après mai 68, la période qui critique les idées reçues, période qui remet en question l'autorité, le monde adulte, période qui favorise l'innovation. En même temps, il y a l'influence du surréalisme, mouvement artistique contestataire et inventif, qui tente de prôner le rêve face à la réalité, qui repousse le rationalisme pour mettre en exergue l'imaginaire. Puis, il y a bien sûr des rencontres clés, comme celle avec Patrick Couratin, de ces rencontres qui ouvrent des perspectives. C'est dans ce bouillonnement-là, insufflé par un éditeur des États-Unis, Arlene Quist, et relayé en France par des artistes, que la fantaisie débridée a pris place dans les albums jeunesse pour bouleverser et renouveler ce petit monde qui dorénavant ne s'adressera plus de la même manière à ses enfants. Les illustrations sont devenues des images riches et complexes, chargées de sens, pour questionner. Des illustrations qui se jouent de la suprématie des textes, des images qui bouleversent des perspectives et des proportions. Enfin, si on ajoute à tout ça l'imagination débordante d'Henri Galeron et le goût permanent qu'il entretient pour le non-sens anglo-saxon et le monde à l'envers, on a là à peu près tous les ingrédients pour hériter d'images surprenantes, avec des animaux hybrides, des images organisées d'éléments disparates, des distorsions de la réalité et des situations déroutantes, des mondes étranges, des décalages, en somme, des curiosités humoristiques. Le travail d'Henri Galeron est en plus un travail minutieux, au trait soigné, visuellement très identifiable, ce qui compense avec l'étrangeté suscitée par des images oniriques. Nous allons écouter deux extraits de la visite guidée par Henri Galeron, qui nous a fait l'honneur de pimenter notre regard de quelques anecdotes, car les images ont aussi leurs petites histoires.
Là, vous avez en face des illustrations faites pour un livre qui s'appelle « Quand » en 77. Donc, c'est un des premiers livres que j'ai réalisé sur une idée que j'ai apportée, donc, qui est celle du monde à l'envers. Enfin, je n'ai pas créé l'idée puisque c'est un univers très, très ancien, hein, puisqu'il y avait des images du monde à l'envers qui circulaient un petit peu après le Moyen-Âge et qui étaient distribuées dans les campagnes par les colporteurs. Donc voilà, c'est la carotte qui mange l'âne, ce sont les puces, les chiens qui mordent les puces et qui se vengent, c'est le laboureur qui met la charrue avant les bœufs et c'est les vaches qui deviennent le train. Voilà, c'est fait avec une technique que j'ai beaucoup utilisée donc dans les débuts, avec un trait à l'encre de Chine et puis des couleurs passées avec des encres colorées qui s'appelaient des écolines qu'utilisaient beaucoup les architectes. Voilà, ça donne une espèce de luminosité à l'image, une transparence un petit peu.
D'une manière générale, vos illustrations ont quand même des points communs. Vous avez introduit notre entretien avec un premier livre qui s'appelle « Quand ». Vous avez mis en avant l'idée du non-sens qui ne vous appartient pas, mais ça reste quand même une idée très forte et assez récurrente dans toutes vos illustrations.
Oui, c'est un thème que j'aime retrouver dans les textes que je choisis d'illustrer. Hein. C'est pour ça que je vais assez directement vers les textes de Lewis Carroll, d'Edward Lear que j'ai illustré récemment, et puis les thèmes populaires du monde à l'envers aussi. Et voilà, mais enfin bon, l'univers des poèmes est déclencheur pour moi d'images. Donc c'est vers ces textes-là que je préfère aller.
Alors on continue avec une image très forte, très connue, extraite d'un livre édité chez Gallimard qui s'intitule « Le pont » à partir d'un texte de Kafka. Vous avez dit tout à l'heure, lors de la conférence qui a précédé l'inauguration de cette exposition, que Kafka ne voulait pas qu'on illustre ces textes.
Oui, c'est surtout à propos de la métamorphose, peut-être aussi pour l'ensemble de ces textes, mais c'est surtout pour la métamorphose. Il voulait surtout pas qu'on illustre l'insecte monstrueux. Voilà, il voulait laisser l'interprétation à chacun de créer son propre monstre. Voilà, alors en se conformant à cette volonté de Kafka, la traductrice chez Gallimard qui s'appelait Marthe Robert des textes de Kafka ne souhaitait pas que l'on illustre ce texte et l'éditeur Pierre Marchand a insisté pour qu'on le fasse quand même, donc c'était un petit peu un petit peu contre l'avis des autorités. Et bah c'est un petit peu ce défi et ce risque qui m'a plu, et c'est vrai, comme je l'expliquais tout à l'heure, que l'univers des surréalistes et bon, bah celui que l'on met en avant pour la ressemblance qu'il peut y avoir, surtout dans les vêtements, hein, le chapeau melon, c'est quelque chose qui appartient à Magritte. La ressemblance est évidente avec cette approche-là. On suit avec des images du Voyage au pays des arbres, un texte qui avait été écrit spécialement pour la collection Enfant Images par Le Clésio. Voilà, où il y a une représentation un petit peu anthropomorphique des arbres qui se soulèvent de leurs racines, qui se mettent à danser au clair de lune, qui s'envolent dans les airs et voilà, c'est le petit garçon qui se promène à travers la forêt et qui imagine que les arbres sont vivants et marchent et volent et parlent, etc. Les feuilles aussi parlent, les feuilles ont des yeux, enfin... Tout un univers aussi que j'ai eu plaisir à illustrer. À côté, c'est toujours dans la collection Enfantimage et Gallimard, c'est un texte de Lewis Carroll. Ce sont deux lettres d'anniversaire qu'il a écrites pour deux enfants, deux petites filles. Et voilà, où il est question de toujours de l'univers des non-sens. Hein. Il part d'une réalité dans ses lettres et puis on décolle très vite vers l'univers du rêve et de l'onirisme. Et voilà, ça crée des situations un petit peu de l'absurde. Voilà, ça c'est un livre écrit par Roald Dahl, le doigt magique, et où il est question de chasseurs qui poursuivent et tuent les canards, et puis les canards se révoltent et deviennent chasseurs à leur tour. Et enfin, tout se terminera bien, mais quand même, ils ont failli tirer et tuer les chasseurs. Donc c'est un peu l'illustration du monde à l'envers, enfin, je dis un peu, mais surtout, qui m'a inspiré, qui m'a fait choisir ce texte également, que j'avais proposé aux éditions Gallimard.
Alors, on continue. Je vous suis.
Voilà, là, on a quelques couvertures de la collection adulte Folio chez Gallimard. J'en ai fait beaucoup depuis les débuts de la collection. Et là, vous en avez quelques exemples. Il y a La Peste de Camus. Il y a La Place de d'Annie Ernaux et le Radeau de la Méduse de François Veillergans, avec deux images pour ce même radeau. Une image qui avait été pas refusée, l'auteur l'aimait beaucoup, mais il souhaitait que je change quelques détails. La première étant celle de droite, le personnage est assis donc sur une chaise au milieu de la mer et il a des chaussures. Donc il m'a dit, l'auteur François Veillergans m'a appelé au téléphone et il était très très drôle et il m'a dit: mais vous vous imaginez assis comme ça dans la mer avec des chaussures? Moi je quitterai mes chaussures, je serai pieds nus. Donc voilà, je l'ai représenté pieds nus sur la deuxième image. Ensuite, comme c'était la représentation de sa propre image, il se trouvait un petit peu gros, alors je l'ai amaigri. Et puis il me dit que je ne porte jamais de barbe, alors j'ai fait un personnage sans barbe. Et puis il me dit la caméra, parce qu'il a, je crois qu'il avait fait l'IDEC, François Veillergans, donc il connaissait un petit peu le matériel cinématographique. Et il m'a dit: mais les caméras, elles se font plus de ce type-là, alors... Il m'avait envoyé un modèle de caméra moderne que j'ai représenté aussi sur la deuxième image. Donc, avec la présentation qu'il m'a fait de son refus, j'étais obligé d'accepter et ça m'a amusé même. La conversation était drôle. Voilà, à côté, là, on a une illustration pour la couverture du Zèbre d'Alexandre Jardin. Il y a le Beaujolais nouveau est arrivé de René Fallet. Et puis le Navire Night de Marguerite Dumas qui... un petit peu par les hasards du choix, se trouve regroupé, mais ça a été fait un petit peu dans une même époque. Là, tout à fait en bas, il y a une couverture refusée pour un livre de Daniel Pénac, c'est « Au bonheur des ogres », qui fait une allusion directe au tableau de Goya, hein, Saturne. Et voilà, enfin, l'allusion est directe dans son livre, et puis bon, je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas souhaité voir cette image, parce que Gallimard demande toujours l'avis des auteurs, hein, pour des auteurs, des grands auteurs ou des auteurs à succès, ils sont très très prudents avec eux.
Chouchoutés.
Comment ?
Je dis, ils sont chouchoutés, on les préserve de contrariétés éventuelles.
Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, donc là on continue toujours avec des titres de Folio. Il y a La guerre du temps d'Alejo Carpentier, La main coupée de Sandrard. Ça c'est une des premières couvertures en utilisant les techniques du début que vous avez vu avec Kant. Hein, c'est un traité au dessin, à la plume, à l'encre. Et coloré avec des écolines. Voilà, il y a le chantier de Donetti, un auteur sud-américain, qui est contemporain de Garcia Marquez. Hein, c'est un petit peu le même univers qui est décrit. Et c'est un personnage qui vit sa vie, mais à côté de ses pompes, hein, d'où son regard sur la chaise inoccupée en face de lui. Voilà, il y a la mort dans l'âme de Sartre. Ça, c'est la première image parce que j'en ai fait une autre plus tard. Voilà, et puis il y a Camus, il y a Moravia, il y a Les Thibauds de Roger Martin Dugard, il y a Peter Handke, l'angoisse des gardiens de but au moment du pénalty. Toutes des images faites avec une même technique. Donc c'est l'acrylique, toujours ça, des techniques plus peintes que les techniques du début.
Alors là, depuis tout à l'heure, vous citez des noms, Moravia, Peter Handke, Sartre, Onetti, Marguerite Duras, etc. C'est tout un pan d'histoire de la littérature aussi. Est-ce qu'il faut avoir tout lu? Est-ce qu'il faut tout connaître pour illustrer, pour travailler notamment les couvertures d'ouvrages?
Bah, écoutez, non, parce que moi, pour vous parler franchement, j'ai découvert la plupart des textes avec les commandes des couvertures que j'en avais. Je n'avais jamais lu Les Thibauds de Roger Martin Dugard, je n'avais jamais lu Peter Handke, Moravia peut-être oui, un livre ou deux, Le Chantier d'Onetti jamais, et donc je découvrais ces livres-là. Hein. Et auprès des éditeurs, je faisais celui qui les connaissait déjà, mais je me précipitais sur le livre pour le connaître tout de suite. Parce que je trouvais formidable quand même d'avoir une couverture à faire sur Sartre. Je n'avais jamais vu Les Chemins de la Liberté, par exemple, de Sartre. Donc j'ai fait à la fois des découvertes littéraires et puis des découvertes d'intérêt pour la fabrication de ces images. Donc c'était profitable à double titre.
L'exposition consacrée aux planches originales d'Henri Galeron que nous sommes en train de visiter en sa compagnie se situe au premier étage de la médiathèque de l'Alcazar à Marseille et elle est visible jusqu'au 5 janvier 2008. Henri Galeron nous commente certaines de ses planches dont les petites histoires croisent la grande histoire de la littérature. Et on peut voir des chiens miniatures qui s'accrochent aux pattes des puces géantes, des cafetières qui ont une forte personnalité. On peut croiser un piano à tête de pilote casqué, un chien bleu, une grenouille rouge mécanique, une chaussette verte, des jouets qui interrogent la maîtresse. Mais enfin, mademoiselle, dites-nous ce que vous entendez par « devenir grand ». Des absurdités qui révèlent les faiblesses des adultes devant l'enfance qui n'a de cesse de les interroger. Des absurdités qui discutent volontiers le monde établi. Des absurdités qui farfouillent dans les représentations du monde qu'on se fait.
Voilà, alors ça c'est comment chasser un monstre. Cette image de couverture n'était pas prévue au départ pour la couverture mais pour l'intérieur. Elle illustre un des textes, celle du monstre peureux. Et c'est un texte de Marie-Ange Guillaume qui explique aux enfants comment on fait pour chasser un monstre. Un monstre imaginaire, bien sûr. Hein, voilà.
Un monstre imaginaire, mais il ressemble à quelqu'un ?
Et oui, parce que c'est une technique bien particulière. Hein, ce sont des photos qui ont été ensuite anamorphosées et déformées avec un travail sur l'ordinateur. Et que j'ai reprises ensuite en illustration en les déformant à mon tour. Donc elles sont doublement déformées.
Et donc celle de la couverture ressemblerait à Patrick Couratin?
Alors, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Enfin bon, il est bien caché quand même. Il n'est pas tout à fait comme ça, heureusement. Mais oui, c'est à partir de photos qui ont été faites de lui, oui.
Et Patrick Couratin, qui est une des personnes qui œuvre dans le milieu de la littérature jeunesse depuis un certain nombre d'années, qui a fait partie de ces gens qui ont participé à ce bouleversement et à la mise en avant d'œuvres, de textes et d'illustrations particulières. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré au cours de votre parcours, quelqu'un qui a été déterminant aussi, quelqu'un d'encourageant.
Oui, complètement. On s'est connus parce qu'on a eu en même temps, à un mois près, l'envie de rencontrer l'éditeur Arlene Quist. Donc on s'est connus à cette époque-là, puis on s'est plus quittés depuis. Et avec des espacements, bien sûr, dans nos rencontres. Mais là, on continue à travailler aujourd'hui. C'est lui qui a, dès le début, mis en page les livres d'Arlene Quist. Et un peu plus tard, il en a assuré également la direction artistique. Et puis, avec le goût qu'il a pris à l'édition, il est devenu lui-même éditeur. Et voilà, maintenant, nous continuons à travailler ensemble. Et il livre des livres clés en main un petit peu pour d'autres éditeurs, parce qu'il ne peut pas se charger lui aussi de tout ce que peut assumer un éditeur. Donc le livre est fabriqué par ses soins, mis en page par ses soins, et édité par un éditeur qui peut être Le Seuil, Panama ou d'autres.
Alors là, on change tout à fait d'univers, puisque ce sont des dessins, donc au crayon, très très peu de couleurs, voire pas du tout.
Oui, c'est une technique à l'encre de Chine utilisée avec un pinceau un petit peu à sec qui rend un petit peu la matière du crayon noir, du crayon compté noir, enfin du crayon gras. Et ça, c'est pour illustrer les poèmes sans queue ni tête qui sont adaptés par François David d'après Edward Lear. Donc toujours les nonsense.
Édité chez Motus, qui est une maison d'édition qui est très sensible à la poésie.
Motus a commencé par éditer des livres de poésie hein, pour adultes, pour tout public. Et puis s'est décidé à demander à certains auteurs, parce qu'ils font toujours de premières éditions, enfin des textes inédits, hein, ils s'attachent à faire ça. Enfin, Edward Lear, c'est un petit peu une exception. Mais sinon, c'est de demander à des auteurs qui n'ont pas forcément écrit pour la jeunesse, d'écrire des textes un petit peu pour tout public. Hein. Son but n'est pas d'écrire non plus spécialement pour la jeunesse, d'y penser quand même, mais d'écrire pour tous les publics. Voilà. Comme le dit François Révidal, hein, il n'y a pas de littérature pour la jeunesse, mais il y a la littérature tout court. Et bon, on peut dire ça pour les illustrations aussi.
Et là, on a un exemplaire géant du Vilain Petit Canard.
Ça, c'est l'édition faite par Nicolas Callaway du Vilain Petit Canard. Et il a souhaité en faire une édition luxueuse sur du très, très beau papier. Avec une jaquette, le tout dans un emboîtage. Et voilà, ce sont des exemplaires qui sont numérotés et signés. Il y en a 250. Sinon, il a fait une édition aussi au même format, mais sans l'emboîtage et sans être numéroté, avec un plus gros tirage que celui-là. Voilà. J'étais vraiment ravi de voir ce qu'il avait pu en faire. Oui, c'est un bel... Une belle réalisation.
Celui-ci est un dessin très connu qui fait la couverture d'un livre Mes poules parlent.
Oui, ça c'est la couverture de Mes poules parlent, écrit par Michel Beignet. Ce sont des poèmes qu'il a réunis sur le thème des poules. Comme les poules ont chaque fois leur personnalité, j'ai souhaité montrer cette personnalité à travers de différentes races de poules. Alors c'est pour ça que vous passez là d'une poule géante et énorme et très ronde à des poules toutes maigres avec le cou sans plumes. Enfin, ces poules avec le cou rouge là, oui. Voilà, qui a pris froid. Donc le fait qu'elle soit dénudée au cou explique l'utilisation du cache-nez autour du cou. Et puis, en fait, c'est une poule qui a peur de se mouiller. Hein.
Et les poules pondeuses bien rangées en rang?
Alors les poules pondeuses, oui, commandées par un coq autoritaire, hein, pondées toutes en même temps, et donc elles se plient à la demande de monsieur le coq. Voilà, et puis là c'est le coq très fier qui sort en ville et puis qui laisse sa famille moisir dans une pauvre baraque. Et voilà, il va faire le coq en ville, hein, très fier de lui. Et les poèmes sont très drôles et quand l'auteur les lit lui-même, c'est vraiment, ils prennent toutes leurs dimensions. À côté, c'est le rap des rats. Alors, c'est toujours écrit aussi, ce sont des poèmes écrits par Michel Beignet. Et autour du thème des rats, les rats sont les exclus, hein, les gens mis sur la touche, un peu sur le côté.
Oui, mais des exclus qui se cultivent, qui vont voir des expositions, des exclus qui s'aiment, des exclus qui pensent, qui rêvent de voyages, qui se documentent et qui vivent tout simplement.
Voilà, qui vivent tout simplement et que les autres ne veulent pas voir vivre et qui n'acceptent pas en tant que tels, hein, qui sont différents, disons. Voilà. Alors là, il y a quelques images de Tom et son ombre dont ma fille a écrit, Zoé a écrit le texte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui perd son ombre. L'ombre vit sa vie de son côté, rencontre plein d'aventures. Le personnage, sans son ombre aussi, vit plein d'aventures. Et puis ils finissent par se retrouver à la fin de leur vie, tous les deux. Et puis ils font encore un petit bout de chemin ensemble, sans se quitter, en se promettant de ne jamais plus se quitter. Voilà.
Une dernière question, Henri Galeron. Un projet sur le feu, un livre à paraître ?
Oui, un livre qui va paraître au printemps, donc toujours sur les univers que j'affectionne. Ça, c'est sur les non-sens et les limericks, qui sont les poèmes écrits, une forme poétique, les poèmes écrits par Edward Lear. Et c'est un livre sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, mais en étant entrecoupé par des commandes et par d'autres travaux. Voilà, donc c'est une suite d'une trentaine d'images. Et ça paraîtra au printemps, peut-être aux éditions Panama, j'espère en tout cas, et mise en page et avec la direction artistique de Patrick Couratin.
Alors, Henri Galeron, qui a illustré un grand nombre de livres, mais peut-être trois titres récents et variés pour attirer votre attention. Une réédition chez Panama en 2006, L'île du droit à la caresse de Daniel Mermet. Une première parution datée de 1998 chez Arlene Quist. Sinon, un classique, Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen, des illustrations réalistes à l'acrylique aux couleurs très intenses dans la collection Folio Benjamin chez Gallimard en 2007. Un grand album, une aventure entre père et fille, Tom et son ombre, dont le texte a été écrit par sa fille Zoé Galeron. Et pour ceux qui ont déjà tout lu, il faudra attendre 2008 pour L'homme qui apprenait à marcher aux poissons. Encore une absurdité, nous dit Henri Galeron, qui a par conséquent très volontiers illustré ses poèmes d'Édouard Lear. Pour tout savoir sur Henri Galeron, il y a un site www.henri-galeron.com qui s'ouvre sur un chouette clin d'œil.
Une ferme du Poitou, un coq émet une pendule, tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rend en coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule de Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Ah, mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh, ma pendule, je t'adore, ah, laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, oh, mon amour. Cette fable ridicule de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit, il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles en écoutant son Don Juan lui se riner sa ségodille pour imaginer son trépas.
point n'est besoin d'être devin. La pendule sonne l'heure du repas. Coco vin, coco vin, dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule.
C'était notre clin d'œil, Claude Nougaro, poète chantant, que le poulailler avait aussi inspiré. Le coq et la pendule est une chanson extraite de l'album Une voix d'Idoie, avec au piano Maurice Vander.
Un caillou dans la chaussure.
La lecture n'est pas facile pour tout le monde. Et chacun a le droit d'aimer lire un peu, pas beaucoup, passionnément. Et que ce soit des romans, des bandes dessinées, des albums, des documentaires, au club des lecteurs, le mercredi après-midi à l'Alcazar, qu'on soit goulu ou qu'on ne sache pas bien lire, qu'on aime lire ou qu'on préfère écouter les autres, la rencontre est spontanée. Menée tambour battant par Olivier, ce mercredi-là, les enfants venus au club ont visité l'exposition Henri Galeron, puis partagé leur coup de cœur. Nous avons donné la parole à Raphaël.
Pour faire partager le goût des livres que j'aime aux autres et pour pouvoir raconter les histoires des livres que j'explique aux autres parce que je lis beaucoup.
Tu as quel âge ?
11 ans.
Et pourquoi tu aimes lire ?
Je sais pas, c'est parce que j'aime bien me plonger dans les histoires et rester là à rien faire, à part écouter les personnages raconter leur histoire à leur manière.
Est-ce qu'il y a des genres de livres que tu préfères ?
J'aime bien les livres historiques sur les Romains.
Tout à l'heure, pendant le club des lecteurs, tu as présenté, je crois, un roman policier.
Oui, ça s'intitule Titus Flaminius. C'est une histoire qui se passe à Rome, en plein milieu de Rome. Et c'est un jeune homme, Titus justement, c'est un avocat, et il assiste sans le faire exprès à plusieurs meurtres. Et il se charge lui-même de les résoudre. Et donc, en élucidant tous ces mystères, il nous emmène à Rome, en Grèce, et il nous fait découvrir ses mœurs, ses dieux, ses fêtes, ses coutumes. Donc tout ça, j'aime bien.
Qu'est-ce que tu es en train de lire actuellement ?
Des romans d'Agatha Christie.
Et tout à l'heure aussi, tu expliquais que tu aimais bien lire parce que tu étais toute seule ?
Oui, quand je lis, j'ai une sorte de bulle de protection autour de moi. Je n'entends plus rien et je vois la pièce, les personnages évoluer autour de moi sans rien faire et en parcourant les pages comme si je regardais un film.
Et aujourd'hui, au club des lecteurs, comment ça s'est passé ? Tu peux nous raconter un petit peu ?
Eh bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment que des romans, qu'on pouvait présenter d'autres choses, un petit livre d'enfant ou un documentaire. Et c'est assez bizarre quand on voit que quand un enfant raconte une histoire, on voit sa personnalité à travers. Quand on voit le roman ou le livre qu'il lit, on voit le caractère qu'il a, sa manière d'être, ses sentiments. Et quand il parle, on sent la façon dont il a aimé le livre et la façon dont il le raconte.
Donc c'est aussi un moyen de faire connaissance avec d'autres enfants à travers la présentation des ouvrages et en partageant vos plaisirs de lecture.
C'est ça, oui. C'est ça.
Tu viens régulièrement au club des lecteurs ?
Non, la première fois que j'y suis allée, c'était il y a 2 ans. Je n'avais pas vraiment aimé. Là, je suis plus grande, donc j'ai réessayé et j'ai trouvé ça beaucoup mieux.
Dans un premier temps, avant de démarrer le club de lecture, il s'est passé quelque chose. Olivier vous a emmené visiter une exposition.
Oui, c'est une exposition, un auteur qui racontait l'illustration des livres. Et je trouve que les livres qu'il a illustrés, rien qu'à voir l'image, on dirait que c'est comme si je lisais le livre. Je voyais exactement la même chose. C'est un très très bon illustrateur, je pense.
Il s'appelle Henri Galeron. Tu avais retenu son nom ?
Ben non, pas vraiment. Pas vraiment, non. C'est pas un nom que je pense à retenir.
Au cours de l'exposition, il y a eu différents commentaires. Et qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de la caractéristique de ces images, de ces illustrations ?
Oui, la plupart du temps, il fait des contraires. La poule qui a des dents, Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il reflète une autre image d'un proverbe ou d'une illustration, d'une histoire. Il reflète un deuxième visage sur cette histoire qu'il est en train de dessiner. Ça fait comme si je lisais deux fois la même histoire, rien qu'en regardant la couverture et en lisant le titre. Il ne faut pas vraiment se fier à la couverture. Selon Henri Galeron, j'ai vu, il a vu des images que j'ai appréciées moyennement. Mais je pense que le livre à l'intérieur doit quand même être très bien.
Merci beaucoup, Raphaël.
De rien.
Toujours à l'Alcazar, on ne recule devant rien. Car le vendredi à 11h du matin, on peut s'initier à la lecture, et ce, dès le plus jeune âge. Il est entendu que le goût de lire passe par la familiarité que les enfants se construisent avec les livres. Alors ils ont entre 0 et 3 ans et leurs parents les ont accompagnés pour écouter un ou une bibliothécaire qui aura installé un tapis sur lequel on est invité à retirer ses chaussures, à s'asseoir, s'allonger, s'étirer, écouter, tripoter les livres et gazouiller. Ce jour-là, c'est Olivier qui s'est chargé de livrer les mots, de servir les images, de capter l'attention en jouant des sourcils, de mimiques appropriées et de regards complices. Avec un livre de photos de bébé, sous toutes ses facettes, en miroir, les effets sont immédiats. On écoute un extrait.
Bébé content, bébé triste, bébé sage, bébé coquin, les mains de bébé, les pieds de bébé, bébé barbouillé, bébé tout propre, bébé qui rit, bébé qui pleure,
la petite fille, elle est pas contente.
Bébé mouillé, bébé tout sec. Bébé habillé, bébé tout nu. Bébé chauve, bébé chevelu. Les fesses de bébé, la tête de bébé. Bébé en voyage, bébé au repos. Bébé chut, bébé boum boum. Bébé timide. Bébé hardi, un bébé, deux bébés, deux beaux bébés et toi.
Un caillou dans la chaussure.
Très bientôt, le festival d'images et d'imaginaire Laterna Magica va débuter. C'est du 5 au 23 décembre à Marseille. Après le conte, la poésie et la couleur, c'est autour du thème du paysage que des expositions, des ateliers, des projections, des rencontres pas comme les autres vous sont proposées. De rares occasions pour picorer, s'attarder sur des images et des imaginaires de qualité et peu diffusés. Et pour un caillou dans la chaussure, comme nous aimons prendre le temps, Nathalie l'a fait par téléphone avec Jean-François Laghioni, cinéaste.
Le Petit Cinéma.
Chaque premier mercredi du mois, Le Petit Cinéma vous donne rendez-vous en matinée au cinéma Les Variétés. Mercredi prochain, le 5 décembre, vous pourrez découvrir un programme de films d'animation en marionnettes et dessins animés pour les tout-petits, les contes de la Datcha. Quatre histoires qui parlent d'amitié et de solidarité. Et comme elles se passent tout au cœur de la forêt, le loup ou le renard ne sont jamais très loin. Le programme commencera avec l'histoire d'une petite fille qui vient en aide à deux lapins transis de froid, puis celle d'un lapin qui reçoit un cadeau surprise et qui s'en va le partager avec ses deux meilleurs amis. Ensuite, des crayons de couleur dessinent leur monde idéal. Et enfin, nous découvrirons une toute petite maison, mais si accueillante que tous les animaux voudraient bien y habiter. C'est un programme inédit de films russes des années 60 aux années 80, composé à partir du fonds exceptionnel du distributeur de films russes Arkeion. Et cette séance s'adresse à tous, y compris aux enfants à partir de l'âge de 2 ans. La séance de ce petit cinéma de décembre ouvre la manifestation Laterna Magica, que Fotokino organise pour la 4e année du 5 au 23 décembre. Laterna Magica, c'est une fenêtre grande ouverte sur la création contemporaine, et l'on peut y découvrir une diversité d'expressions artistiques, et notamment des films tout azimuts, des muets du début du cinéma jusqu'à des petites formes diffusées seulement sur Internet. Cette manifestation s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, car il faut bien des adultes pour emmener les enfants dans des salles d'exposition ou des salles de cinéma, mais il faut aussi des enfants pour réveiller notre regard sur le monde qui nous entoure. Parmi les invités de cette année, on retrouvera Grégoire Solotareff, l'auteur de plus d'une centaine de livres jeunesse et de 2 films, Loulou et U, dont nous avons parlé le mois dernier. Nous vous invitons à venir revoir la version cinéma de son Loulou, ainsi qu'un très beau film russe, Le hérisson dans le brouillard, un film de Yuri Norstein. Ça sera le mercredi 12 décembre à 16h aux Variétés, en présence de Grégoire Solotareff. Et à 18h, à la librairie Histoire de l'œil, Grégoire Solotareff évoquera sa relation au cinéma et ses futurs projets.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
J'ai eu envie de vous en dire un peu plus sur l'un des films programmés cette année dans Laterna Magica, à propos de Gwen et le livre de sable. Gwen, c'est un film de science-fiction et un poème d'image. C'est l'histoire d'une société de consommation disparue et des rescapés de la catastrophe. Parmi ces rescapés, une tribu de nomades dont fait partie la jeune Gwen qui a 13 ans et qui n'a pas froid aux yeux. Ils vivent dans un monde entièrement recouvert de sable et sous les dunes vit le Maku, une chose mystérieuse qui chaque nuit crache du ciel des objets insensés qui transforment le désert en un pays étrange. Champs de gigantesques lits, canapés, robinets, radiateurs.
Quand le Maku se retirait, il laissait parfois dans le désert d'étranges images, de toute forme et de toute taille. Nous les respections, ces images, bien qu'elles soient tout à fait mortes, car elles nous étaient utiles bien souvent pour nous protéger du soleil ou du froid. Alors le désert nous appartenait tout entier, dans son désordre immobile, de silence et d'oubli, de bruit léger, d'ombre et de lumière.
Gwen va partir avec la vieille Roseline âgée de 173 ans à la recherche de Nokmoon qui a disparu dans la nuit. Elles vont atteindre une ville d'un autre temps, une ville nichée dans une pyramide inversée plantée dans le sable. Et dans cette cité mystérieuse, il ne reste qu'un seul livre, le seul que les dieux aient laissé derrière eux. Un catalogue de vente par correspondance, dont ils chantent les textes comme une messe. Ce film date de 1984 et il s'agit du premier long-métrage d'animation de Jean-François Laghioni, le créateur ensuite du Château des Singes en 1999 et de l'île de Blackmore en 2004. Et ce film n'a pas été fait spécialement pour les enfants à l'époque. Cette année, nous le recommandons pour les plus de 7 ans. En 1984, la seule référence en matière de long-métrage d'animation, c'était Walt Disney. Et l'univers surréaliste et poétique de Jean-François Laghioni était très loin de celui de Disney, d'où l'incompréhension totale à la sortie du film. mais ressorti en 2005, le film peut enfin revivre.
Petite. Hé, hey, petite. Descends. Et remonte ton voile.
Qui c'est celle-là? C'est Gwen, la fille de Tom Logan. Elle est avec nous maintenant. Là-bas, ils dorment à la surface. Le nez dans les étoiles.
Même les nuits de pleine lune?
Oui. Même les nuits de pleine lune.
Et lui, pourquoi n'a-t-il pas de voile?
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Bon, elle ne sait pas.
Elle a la langue bien pendue.
Elle avait surtout des yeux comme du feu, des yeux qui vous fixaient sans détour et qui ne semblaient pas connaître la peur.
Chut. Taisez-vous. Le voilà.
Avant l'aventure de Gwen, Jean-François Laghioni a réalisé plusieurs courts-métrages en papier découpé et articulé. Et pour ce travail au long cours qu'est le long-métrage, il a créé un studio de films d'animation en 1979, La Fabrique dans les Cévennes, un des rares studios d'animation français toujours en activité qui contribue grandement à soutenir le travail d'auteur et d'artiste. Jean-François Laghioni sera l'invité de l'Aterna Magica pour nous permettre de mieux connaître cet auteur et ses films. Et nous vous proposons de passer un peu de temps en sa compagnie dès maintenant, en direct de son atelier au nord de la Bretagne, pas loin de la mer qu'il aime beaucoup.
En fait, je suis même au nord de Guingamp, au bord de la mer. Je vois un bras de mer qui monte et qui descend toutes les 6 heures.
Vous serez notre invité sur l'Aterna Magica en décembre. Alors Gwen, donc je disais tout à l'heure, c'est le premier long métrage. Avant Gwen, il y a eu plusieurs courts métrages. Le premier date de 1963, c'est La Demoiselle et le violoncelliste. C'est l'histoire aussi d'une rencontre avec Paul Grimaud.
Exactement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des films, c'est en fond, c'est grâce à lui. Je pense pas que ça aurait pu se passer autrement. J'étais assez timide. Il fallait que j'ai l'appui comme ça d'un grand bonhomme qui en plus m'a fichu complètement la paix. Il m'a dit bon bah tes petites histoires m'amusent. Elles sont poétiques. Là il y a une caméra qui n'est pas utilisée en ce moment dans le studio, vas-y, tu dessines, ben fais ton film, et puis c'est la meilleure façon d'apprendre l'art de l'animation, et ben, je pense qu'il avait raison.
Oui, donc il avait pu voir vos dessins, parce que vous avez travaillé pour lui déjà, en tant que dessinateur?
Non, j'ai jamais travaillé pour lui, je faisais des petits spectacles en ombre chinoise, et en marionnette. Donc je lui ai montré un jour un spectacle que j'ai adapté ensuite, qui est devenu La Demoiselle le violoncelliste. Bon, ça lui a plu, il m'a dit vas-y, voilà. C'est aussi bête que ça. Il n'y avait pas d'école, alors. Puis même, il y aurait eu des écoles, je ne pense pas que j'y serais allé. Je suis un très mauvais élève. J'ai quitté le lycée en troisième. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Au collège, je dessinais, bien sûr, j'ai toujours dessiné beaucoup, j'écrivais aussi déjà des histoires, et sans doute, si j'ai fait ce métier, c'est peut-être pour essayer de concilier les deux, c'est-à-dire mes petites histoires et mes dessins, Le cinéma, c'est fait pour ça. Si on y rajoute la peinture, la musique, on a un moyen d'expression qui est,
complet.
Qui est vraiment très, très riche. Quoi. C'est assez extraordinaire.
Donc, La Demoiselle et le violoncelliste, c'est un film en papier découpé. Donc, en papier peint, découpé.
Alors, et articulé.
Vous avez donc fait plusieurs courts-métrages. Alors, le premier, La Demoiselle et le violoncelliste. Ensuite, L'Arche de Noé. Une bombe par hasard. Des films de prise de vue réelle. Et puis, d'autres films comme Piotr et la fille des eaux, Le masque du diable, L'acteur. Et puis, enfin, La traversée de l'Atlantique à la rame, qui a obtenu la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes en 1978. Ce temps, vous avez fait des courts-métrages où vous dites, et je vais vous citer, qu'un court est plus le reflet d'un auteur qu'un long-métrage, puisque derrière un film court d'animation, il y a souvent surtout un auteur. Et pour le long-métrage, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure. Pour ça, vous avez créé un studio, La Fabrique, dans les Cévennes. Vous avez convié plusieurs personnes à se joindre à cette aventure.
C'était une toute petite équipe, mais c'était déjà une aventure collective. Les plus beaux films sont toujours des courts-métrages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une unité de création qui vient du fait que l'auteur, créateur, dessinateur, etc., est tout seul. J'ai fait ça quand même pendant pas loin d'une quinzaine d'années.
Oui, c'est déjà beaucoup.
Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de rompre cette solitude. Donc j'ai fait un premier film avec Cali, avec ma compagne, qui était Piotr et la fille des eaux. Elle avait fait les décors et puis Le masque du diable aussi. Pour la traversée de l'Atlantique à la rame, elle n'a pas voulu ramer avec moi, donc j'ai ramé tout seul pendant un an et demi. J'ai pensé que ça suffisait. J'ai pensé que le cinéma, ça pouvait être aussi d'autres joies qui est la création collective. Oui, en général, je crée les personnages parce que ceux-là, ils m'appartiennent et je veux laisser ce soin-là à personne d'autre.
D'accord. Et alors là, vous travaillez sur le quatrième long-métrage qui s'appelle Le Tableau.
Quand je viendrai vous voir, je vous apporterai quelques dessins.
Rendez-vous donc le dimanche 16 décembre à 17h au cinéma Les Variétés pour découvrir Gwen, précédé d'un autre court-métrage de Jean-François Laguioni, L'Arche de Noé, en sa présence.
Merci Nathalie. Donc l'Aterna Magica, du 5 au 23 décembre à Marseille, c'est très bientôt. Et comme on ne peut pas parler de tout, nous vous conseillons de vous procurer le programme détaillé, largement diffusé dans les librairies, les cinémas et les lieux culturels, mais aussi sur le site de photokino.org.
Et le prochain petit cinéma vous permettra de découvrir un autre film de M. Laguioni, L'île de Blackmore, le 9 janvier.
Children, children.
Alors Florence, côté scène, tu as rencontré Maxime de Jouguido de la compagnie La Moscope à propos d'un spectacle surprenant, Le Voyage de Capucine. Et ce spectacle parle d'une introspection d'une petite fille plutôt curieuse.
Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui a du mal à comprendre l'histoire de sa mère et qui envisage un voyage à l'intérieur de sa mère pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Et Maxime en parlera beaucoup mieux que moi dans les moments qui vont suivre, donc je vous propose de l'écouter.
Alors bonjour Maxime, tu es le donc Maxime de Jouguido qui est amoscopeur. Est-ce que tu peux brièvement nous donner une définition du mot ?
Damos Copper, pas encore, parce que c'est une formule qui vient brillamment d'être inventée par ma chargée de diffusion, Marie Laignot-Bignon, qui décidément connaît son métier. Mais en revanche, Lamoscope, qui est le nom de la compagnie, oui, je peux en parler. Donc Lamoscope, c'est un outil d'exploration des âmes. Et c'est un objet qu'on rencontre dans Bulldozer, qui est le spectacle par lequel je me suis lancé professionnellement dans tout ça, là, dans la voie artistique. Et c'est un chapeau dans lequel il y a un trou. Et donc quand on regarde dans le trou, on découvre les arcanes de celui, du cerveau plutôt, de celui qui porte le chapeau.
Et en fait, ce chapeau, il est unique. Est-ce qu'il existe encore, le chapeau ?
Le chapeau existe virtuellement, donc oui, il existe encore.
Il n'a pas d'existence physique a priori, il n'a pas pris de forme. Dans Bulldozer, déjà, il n'avait pas de forme.
Non, dans Bulldozer, il n'avait déjà pas de forme. En fait, c'est Vitamine, qui est une femelle hippopotame, qui consulte, donc, qui consulte le personnage principal de Bulldozer, qui était moi. Et elle lui pose un chapeau sur la tête, donc c'est moi qui raconte ça. Elle a sorti un truc qui me l'a mis sur la tête. C'était bien un chapeau, mais il avait un trou. Voilà, c'est comme ça que je présente Lamoscope.
Et Lamoscope, depuis Bulldozer, a pris un tournant différent et qui commence à s'adresser aux enfants à partir de quand ?
En fait, Lamoscope, avant même que la compagnie soit fondée, elle a été fondée en 2005, il y avait déjà un spectacle qui s'appelle Bam Tiliou, qui a été créé lui en 2007, en 97. En fait, du jeune public, Lamoscope, avant même d'exister, il y en avait déjà dedans. Et en revanche, là, en 2007 plutôt, là, pour Avignon qui vient de s'écouler, on a créé un deuxième spectacle jeune public qui s'appelle Le Voyage de Capucine. Donc Bam Tiliou et Le Voyage de Capucine, c'est des spectacles tout public à partir de 7 ans. En fait, ce n'est pas spécifique jeune public. Il y en a un qui est un conte philosophique sur le thème de la différence et l'autre qui est un conte psychanalytique, sans vouloir faire peur à personne. Hein. Voilà.
Alors, à mon avis, ça ne va pas faire peur à personne. Ça, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un conte psychanalytique ?
Ça veut tout simplement dire que Capucine est une petite fille qui décide de rentrer à l'intérieur de sa mère pour voir d'où viennent les choses bizarres que sa mère parfois lui dit. C'est ça que ça veut dire.
Donc en fait, il est question là d'aller chercher derrière les mots.
M-A-U-X. Derrière les mots de sa mère. En fait, Capucine, c'est ça. Elle est dans une position où peut-être sa mère lui fait partager des choses auxquelles elle comprend rien, qu'elle n'arrive pas à comprendre, parce que sa mère explique à Capucine au début de l'histoire qu'elle doit faire un voyage pour aller se trouver, la mère. Et donc Capucine lui répond « Mais te trouver, mais t'es là !» Et donc c'est comme ça que ça part. Et ensuite elle raconte Capucine à Enzo, qui est son amoureux, que sa mère lui a dit ça. Et elle lui dit « Moi je veux rentrer dans ma mère pour aller voir d'où ça vient, ces trucs bizarres, elle m'en dit plein ces derniers temps, etc. » Et donc du coup, ils vont vivre une espèce d'aventure intérieure. Là, je fais référence au titre du film, tu vois, un grand public là, qui s'appelait L'Aventure intérieure. C'était la miniaturisation d'un personnage qu'on faisait rentrer dans le corps de quelqu'un, et puis bon, il y avait des tas d'aventures. Bon, ben là, c'est un petit peu ça aussi, sauf que effectivement, ces versions plus psychanalytiques, ils vont dans le corps de la mère et ils vont débloquer des trucs qui vont faire avancer le schmilblick existentiel de la mère et donc celui de Capucine aussi.
Simplement, le voyage commence où ?
Le voyage commence à l'extérieur du corps de la mère. Donc Capucine décide qu'elle va rentrer dans sa mère. Elle demande à Enzo, son amoureux, de l'accompagner parce qu'elle a un peu peur d'y aller toute seule. Et donc il rencontre un personnage, les deux, ils rencontrent un personnage qui est une espèce de vieille magicienne. Ils montent tout en haut de la colline pour la rencontrer. Et la vieille magicienne leur donne une formule magique qui va leur permettre de rentrer dans l'oreille. En fait, dans le corps de la mère, par l'oreille. Voilà, donc en fait, ils rentrent par l'oreille et ensuite, il y a toute l'aventure justement donc intérieure dans le corps de la mère. Et puis à la fin de l'histoire, ils ressortent, Capucine retrouve sa mère, il y a des changements qui se sont produits et l'histoire se boucle comme ça.
Alors, sur l'entrée par l'oreille, donc le premier conte, donc Bamti Liu, où il était... la différence de Bamti Liu résidait dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'elles avaient déjà de très spécial, ces oreilles ?
Ben, je ne sais pas. En fait, c'est une question éminemment psychanalytique, parce que je ne sais pas ce qui me fait m'intéresser tant aux oreilles. Mais effectivement, Bamti Liu, le personnage, c'est un enfant qui a des oreilles donc, particulières, elles sont musicales. Il y en a une qui est en forme de tambour, qui dépasse de son crâne, l'autre en forme de harpe, qui est collée à son crâne avec des cheveux tendus à l'intérieur. Et quand il tape sur la première, ça fait bam, et quand il effleure les cheveux de la seconde, ça fait tiliou, tiliou, tiliou. Bref, et c'est comme ça qu'il s'appelle Bamti Liu, parce que sa musique est si jolie que ses parents lui donnent un prénom qui y ressemble. Et après, bah, c'est vrai qu'il m'est venu l'idée de faire rentrer Capucine dans sa mère par l'oreille, aussi parce que c'était plus politiquement correct de la faire rentrer par l'oreille.
Mais attends, il y a plein d'autres orifices, hein. On peut rentrer par le nez, par la bouche. Bon, on va s'arrêter là, mais sans aller chercher midi à 14h.
C'est pas possible.
Voilà, l'oreille, qu'est-ce que ça évoque pour toi ?
Ben, je sais pas, ça évoque peut-être l'endroit par lequel on écoute, par lequel on entend, par lequel... bon, c'est assez positiviste hein, comme vision, mais quand même, c'est là, enfin, symboliquement... Elle rentre par l'oreille parce que aussi c'est en fait elle rentre par l'oreille Capucine dans sa mère en poussant une petite porte délicatement, et la barbue de la colline qui est cette vieille magicienne en fait qui leur donne la formule dit à Capucine tu devras pousser délicatement cette petite porte que tu trouveras au fond de l'oreille de ta mère, et donc elle pose sa main dessus et effectivement ça s'ouvre, et donc enfin l'idée aussi qu'en parlant délicatement les oreilles s'ouvrent quoi, que enfin voilà, en étant dans une délicatesse de la relation à l'autre quoi. Donc en fait, l'oreille, elle est peut-être une porte d'entrée pour la relation à l'autre en général. Et peut-être c'est pour ça que ça m'intéresse.
Peut-être. Pour poursuivre, j'avais une question d'ordre aussi intime que l'oreille. Savoir si... alors, je ne connais pas du tout, évidemment, ton histoire familiale, mais est-ce que tu aurais aimé un jour rentrer, toi, à l'intérieur de ta mère et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur ?
Ben non, pas spécialement. En fait, là, le fait que Capucine rentre dans sa mère, ça vient de sa logique d'enfant. Les choses bizarres sortent de la mère, donc elles sont dans la mère, donc on va aller voir à l'intérieur de la mère pour voir d'où ça vient et si ça peut s'arrêter aussi. Donc en fait, c'est une logique d'enfant, là, comme ça, en apparence. Et autrement, ben, la symbolique du truc, c'est que les enfants qui sont dans des vécus confusionnels, on va dire, donc ce qui est le cas en fait de Capucine, là, on les charge implicitement de résoudre des choses qu'ils ne sont pas en mesure de résoudre. Et bien qu'ils ne puissent pas résoudre ce dont on les charge, ce qu'on les charge de résoudre, ils vont essayer quand même, parce qu'un enfant, ça se situe dans l'absolu de l'histoire de ses parents. Ça n'a pas de recul, justement, existentiellement parlant. Donc, si tu demandes à un enfant de monter à l'échelle sans échelle, il va essayer. Il ne va pas y arriver, mais il va essayer. Donc, ce que je veux dire, c'est que les vécus confusionnels, ils génèrent de l'angoisse, de la culpabilité, un sentiment d'échec, mais aussi, ils génèrent une énergie spectaculaire. Et pour peu que cette énergie-là rencontre à un moment, à l'adolescence ou à l'âge adulte, quelque chose de constructible, alors on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la résilience parfois, ce que certains appellent la résilience. Donc comment en fait on fait de ces accidents de vie ou de ces difficultés de construction, bah des choses sur lesquelles on va rebondir et dont on va se servir. Donc voilà, en fait, là, l'idée symboliquement, c'était ça aussi. C'était Capucine, elle a peut-être les difficultés inhérentes aux gamins qui ont son profil. Elle est avec une mère qui pour laquelle les frontières sont peut-être pas tout à fait nettes. Mais en même temps, c'est pas, ça génère des difficultés, mais pas seulement.
Sur l'appellation, les mots... Ouais, les mots disent des choses, donc autant en profiter. Tu dirais que tu es plutôt conteur, comédien. Qu'est-ce qui te définirait le mieux dans ton travail sur scène ?
Indisciplinaire.
Et donc, cet indiscipliné a choisi de faire appel à un musicien pour l'accompagner ?
Ouais. Ben, oui, j'ai choisi de faire appel à un musicien, à une metteur en scène sur l'ouvrage de Capucine et sur Altérissage. Moi-même, bon, bah, en fait, je viens du théâtre, j'ai fait du théâtre, mais je suis conteur aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les genres, ils peuvent se mêler pour donner une forme dont le but, c'est qu'elle soit riche et qu'elle parle et qu'elle fasse lieu d'échange entre moi et puis les gens qui sont venus pour l'écouter, quoi.
Justement, je vous propose d'écouter un tout petit morceau de l'histoire de Capucine.
Et du coup, la route est libre pour nos deux aventuriers. Ils se retrouvent le lendemain matin, à 8 heures, au pied de la colline. Il y a une légère brume qui enveloppe la nature, un sentier pierreux qui s'insinue dans la colline, et des arbres qui ont déjà une forme mystérieuse. Capucine est là, un peu excitée d'aller à l'aventure avec Enzo, mais pas très rassurée quand même. Mais ça y est, Enzo s'engage sur le chemin. Capucine le suit et ils marchent tous les deux. Ils marchent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ils arrivent bientôt sur un haut plateau sur lequel il y a des roches, des arbres et de la menue végétation, des ronces, des buissons, à travers lesquels Enzo continue de se frayer un chemin. Mais soudain, stop ! C'est là ! Où ça, là ? Je vois rien, Enzo ! Dans l'arbre ! Dans l'arbre ! Mais je vois rien ! Mais non, Capucine, pas dans l'arbre ! Dans l'arbre !
Rendez-vous donc tout à l'heure à la Baleine qui divague à 15h pour le spectacle en entier. C'est vraiment une histoire passionnante que je vous invite à aller écouter.
Et voilà que nous rattrapent les mots de la fin. C'était Un caillou dans la chaussure, une émission proposée et animée par Marie-Dominique Russis avec Nathalie Guimard et Florence Michel. Et dans les coulisses, le grand et patient Sébastien à la technique. Merci à tous. On se retrouve au prochain numéro le mercredi 26 décembre à 13h30 avec au sommaire des échos du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, le petit cinéma de janvier 2008 et des spectacles à partager. Un caillou dans la chaussure sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille et partout dans le monde en direct sur le net via le site de la Grenouille www.grenouille888.org.